Voilà, vous vous présentez avec, comme vous le souhaitez,
oui,
avec ce qu'a été votre... comment vous êtes entré dans cette...
Ça, c'est très simple, voilà. Je vais vous le dire. Donc, Christophe, 52 ans, donc je suis fonctionnaire territorial. J'ai un fils qui a 23 ans. J'étais marié jusqu'en 2013. Et au moment du divorce, je suis tombé dans un système où c'est l'alcool qui prenait le dessus, en fait. Je me levais, je pensais à l'alcool. Je me couchais, je pensais à l'alcool. Et en fait, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai dit, il faut arrêter, là. Donc le 23 décembre 2015, je me suis levé à 8h, j'ai pris les bouteilles et j'ai tout jeté. Comment je suis arrivé là? Parce que je pense que c'est une facilité. C'est un moyen de se dire, eh, c'est bon, j'ai oublié tous mes tracas, je vais picoler, je reste à la maison. Et je ne sortais pas. Hein. Je ne sortais plus.
Il n'y avait plus de tissu social. C'est instantanément que vous vous êtes mis à l'alcool.
Voilà. Dès que j'ai su qu'elle en avait trouvé un autre, et voilà, je suis tombé là-dedans comme ça. Et en fait, pour moi, c'est une facilité. C'était une facilité.
Et qu'est-ce que vous preniez comme alcool?
Du Ricard. Je ne buvais que du Ricard.
Que du Ricard.
Ah oui.
Dès le matin.
Oui, à 10h. Et en fait, c'était une facilité. C'est bon, j'ai bu ma dose. L'après-midi, c'est la sieste. Et puis, une fois que vous étiez relevé de la sieste, vous rattaquez. Puis, vous allez vous coucher à 9h. Puis, à 5h du matin, vous dansiez dans la maison. Vous attendiez, vous revenez, vous couchez un petit peu. Et puis, à 10h, on recommençait. C'est, en fait, c'est un cercle vicieux. Et puis, ce matin-là, le 23 décembre 2015, je me suis levé. J'ai tout jeté. Tout. J'ai été malade. Donc j'ai appelé Toubib, docteur Etilé.
Alors attendez, ce moment-là où vous... donc vous apprenez donc votre...
Ouais.
Votre
et alors il y a eu un autre fait...
Qu'est-ce qui se passe en vous?
Il y a eu un autre fait qui était marquant, c'est que je m'étais cassé le tibia au football. Donc les deux... Ça, j'étais dépendant de quelqu'un, en fait. Puisque je ne pouvais pas me déplacer, je suis resté en fauteuil roulant. Et quand elle m'a annoncé ça, elle m'a laissé dans cet état-là. Elle est partie sans prévenir. Donc, moi, j'ai cogité. J'étais admis traitement. C'était tout un ensemble de vie. C'est un fait de vie. J'appelle ça un fait de vie, moi. Et en fait, pourquoi je me suis réfugié là-dedans? Je suis incapable de le dire. Peut-être que c'était une facilité. C'était un moyen à moi de me dire, tu vas oublier tous tes soucis et puis tu vas partir là-dedans. Est-ce que c'était... Ah, je ne veux pas dire que c'était un médicament, c'est des conneries. Mais... C'était un système où l'alcool me permettait d'oublier.
Oui.
Voilà.
Oui, c'était une réponse à votre situation.
Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que, ben voilà, tiens, je me lève, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je suis tout seul, je peux pas me déplacer. Bon, l'apéro. Un apéro, deux apéros, trois apéros, quatre apéros. Et puis, on rentre vite dans le cercle.
Qui c'est qui a amené les bouteilles?
C'est moi qui les ai amenées. Puis des fois, j'ai essayé. Alors, quand j'ai réussi à marcher un petit peu, j'allais les chercher. Sauf qu'après, j'avais fait un deal avec le commerçant de plus m'en vendre.
Vous avez demandé au commerçant
voilà.
De vous aider.
Un collègue, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, juste avant que je jette tout, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il n'y a pas de fait. L'élément déclencheur, ça a été le fait que je me sois pété le tibia et que je me retrouve tout seul.
Voilà.
L'élément déclencheur, c'est ça. Je buvais l'apéro avant. Ça m'arrivait comme tout le monde. Je me mettais, ça m'arrivait de prendre des cuites. Mais là, c'est arrivé à un point où j'étais complètement dedans. Comme on disait, je vivais Ricard, je dormais Ricard.
Ouais.
C'est la vérité.
Ouais.
Et donc, ce 23 décembre, je me lève, une envie de vomir. Parce que j'arrivais à... On mange plus, on fait plus rien. On n'a plus de vie sociale. J'avais plus personne qui venait me voir. Et justement, ça m'a frappé un petit peu avant. C'est là que ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais putain, t'as vu dans l'état que t'es? On se regarde dans la glace. On dit, mais c'est pas... T'es boursouflé. Je lui dis, mais t'as vu dans l'état que t'es?
Et... Ah oui, vous vous êtes vu à un moment.
Ah, je me suis vu.
Oui.
Dans la glace. J'ai dit, mais t'as vu dans l'état que t'es? Les cernes jusque-là. Boursouflé. Je lui dis, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer. Ton gamin a 20 ans. Enfin, plus, ça va faire... Depuis 2015, on est en 2020, ça fera 5 ans que j'ai arrêté. Mais... Tu te dis, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Et puis, tous tes potes que t'avais dans le temps, bah, tu vois plus personne. Parce que plus personne ne vient.
Ah oui, on vous évite.
Ah ben on évite. On vous évite pour discuter. Par contre, on vous évite pas quand c'est pour boire un canon. Je m'explique. Il y a des gens qui sont là que pour ça. Quand vous allez tomber dans ce système-là, vous avez des potes tous les jours. Mais j'appelle ça des potes d'apéritif, moi. Et après, quand vous êtes malade et que vous avez besoin d'aide, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on a besoin d'aide. On crie au secours, mais on ne crie pas par la fenêtre. Et quand vous avez besoin d'aide, ces gens-là, vous ne les voyez plus.
Comment vous l'exprimiez, ce besoin de secours ?
Je suis quelqu'un de très nerveux. J'étais pas méchant, mais je répondais sèchement tout le temps. J'étais angoissé. Ça m'oppressait, en fait. Et puis, voilà, j'étais sec dans mes réponses. Et puis, je voulais entendre des conseils de personne. En fait, c'est nous qui avons raison. On est les plus forts, on a picolé. Ouais. Non, mais c'est vrai.
Oui, oui, ça donne un sentiment de toute puissance.
On est bien d'accord, sauf qu'on n'est rien. Aux yeux de la société, on n'est plus rien. Et ce tissu social, en fait, donc ce matin-là...
Et professionnellement
je ne travaillais plus.
Ah oui, vous aviez con.
J'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté le travail. Ça a duré 2 ans. 2013-2015. Et j'avais plus rien, je travaillais plus. Et les revenus, il y avait presque plus rien. Je touchais le RSA, même pas. J'avais droit, non, à l'aide de Pôle emploi. 500 balles par mois. Puis c'est un engrenage. Parce qu'il faut payer tout ce que vous mangez. Il faut payer tout ce que vous avez. Vous avez une voiture, il faut le payer. Donc on rentre dans un système, on s'enfonce beaucoup plus vite qu'on va se relever. Donc tout ça, c'est le fait de m'être vu, en fait. Je me suis dit, putain, t'as vu comment que t'es fait? Parce que j'étais pas beau. On se regarde, on dit, mais on ressemble à rien. Et moi, ça a été ce déclic-là. Et puis, mon fils, j'ai dit, je lui dis, faut quand même, il n'est pas vieux, quoi. Puis mon fils voulait rester avec moi, il ne voulait pas rester avec sa mère. Au début. Bon, maintenant, il a 23 ans. Il travaille. Il est avec une copine adorable, mais voilà. Il s'en est sorti, Julien. Et vous l'avez eu. Et Julien s'en est sorti. Et je l'ai aidé. Parce que j'avais toute ma tête. Il m'a aidé aussi. Parce qu'il ne m'a jamais laissé tomber, mon gamin. Après, enfin, voilà. Et le 23 décembre, donc je vous dis, je me suis levé, j'ai tout jeté. J'étais malade. Mais malade, hein. Quand vous commencez à voir les murs trembler, c'était pas des hallucinations, mais je tremblais. Parce que le fait d'avoir arrêté tout seul, j'ai arrêté tout seul. Ouais. J'ai tout arrêté, j'en ai plus touché. Donc le 27 au soir, je suis resté 4 jours comme ça. Hein. J'ai appelé le médecin. Docteur est-il venu? Il m'a même pas proposé de m'hospitaliser. On parlait franchement avec le docteur Etillet. Je lui dis, il me dit, je t'envoie pas à l'hôpital, hein, Christophe. Non, je veux pas y aller. Tu vas t'en sortir tout seul. Oui, je vais m'en sortir tout seul. Et depuis cette date-là, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas touché de l'alcool dans un chocolat. Et je veux plus en entendre parler.
Pas une goutte.
Pas une goutte, même pas dans un chocolat.
Et vous pensez que si vous en...
Non, 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 parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut savoir, moi, il y a un mot que j'ai appris à dire, c'est non. En fait, j'ai travaillé là-dessus. Il faut, quand on veut s'en sortir, il faut apprendre ce mot-là. Il n'est pas long, hein. Non. Et ma force qui m'a permis de m'en sortir, c'est que j'ai rien arrêté. J'allais au bistrot. Mais au lieu de boire un Ricard, je buvais un café. Et quand il y en a un qui me dit, tu te payes un apéro? Non. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé.
Savoir dire non.
Il faut savoir dire non. Et à un moment, il faut être un peu égoïste aussi, penser à soi-même, et pas penser aux autres. Enfin, c'est mon point de vue. Hein.
Oui, 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 oui.
Voilà comment je m'en suis sorti, moi. Et c'est pour ça que j'ai été ambulancier pendant 18 ans. Hein. Je suis diplômé d'état d'ambulancier.
Ah oui.
Oui. Je suis moniteur national de secourisme. Donc des gens j'en ai emmené en ambulance des gens, malheureusement, dans des centres, partout. Je suis allé en Vendée, je suis allé partout dans les centres. Quand je vois les gens quand ils ressortent, et que en fait la finalité elle n'existe pas parce qu'une semaine après ils recommencent. Alors je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la prise en charge qui n'est pas bonne? Est-ce qu'on ne les accompagne pas assez?
Oui.
C'est quoi?
Voilà. Vous posez les bonnes questions.
Et moi, parce que j'en parle souvent, je dis pourquoi, plutôt que d'enfermer des gens, je vais prendre le cas du pavillon 14 à Saint-Vaury. J'en ai emmené des tonnes là-bas, moi. Est-ce que la structure est adaptée pour ce genre de personnes? Je commence à me poser des questions. Il y a combien de pourcentage d'échecs sur des gens qui sont soignés pour l'alcool dans ce genre de pavillon et qui ressortent, qui ne recommencent pas?
Quel regard critique vous avez par rapport à ce...
C'est... Le regard critique, c'est qu'on considère qu'on va leur donner des antidépresseurs. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Peut-être au début. J'ai pris du CRS 350 pendant une semaine. Une semaine. Pour dormir. J'ai pris de la vitamine B6 pendant un mois. Et de la Otale. Voilà ce que j'ai pris. Et après, comme on en disait, on en parlait souvent avec le docteur Etilé, il disait, tu t'en es sorti, c'est bien, parce que il faut avoir la volonté. Et par contre, j'avais l'entourage. Ma mère, mon frère, ma soeur, mon fils, qui ne m'ont jamais laissé.
Alors parlez-en de cet entourage, parce qu'effectivement, c'est très important. Il y a des entourages qui peuvent être quelquefois...
Alors, l'entourage, il faut... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut arriver à accepter les gens qui sont là pour vous faire du bien. Il faut que dans votre tête, ne pas penser que... En fait, ce qu'ils vous disent, c'est pas pour vous embêter. C'est pour vous aider. Et je crois que psychologiquement, il faut arriver à comprendre que quand on me dit, écoute, t'as arrêté l'alcool, il faut pas que tu replonges dedans, tu sais pourquoi. Ben, il faut que dans votre tête, vous ressassiez pourquoi. Ah oui, putain, faut pas que je reprenne parce que je vais être malade. J'aurai plus de liens sociaux. Tout va s'écrouler autour de moi. Et je pense que c'est ça. Et puis ils étaient là, ma mère descendait tous les jours. Mon frère venait me chercher. J'ai refait du sport, que je ne faisais plus. Et je continue à en faire. Donc voilà, c'est un ensemble. Si on s'en sort tout seul, on peut. Hein. Il n'y a pas de problème, on peut. C'est dur. C'est très dur. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être prendre sur soi-même aussi. Parce que si on ne prend pas sur soi et que l'entourage ne suit pas, comme vous disiez tout à l'heure, compliqué de s'en sortir. C'est très compliqué. Et je les plains, moi, les malades comme ça. Moi, je les plains. C'est... Voilà. Et puis après, ben, tout est reparti. Comme quoi, vous voyez bien, je suis rentré au conseil départemental. Je vais être titulaire au mois de septembre. Je suis arrivé chef de centre, un an après. Là, je gagne bien ma vie. Je me marie le 9 mai. Vous voyez?
En effet.
Donc, voilà, et tout arrive. Et ben, j'aurais continué l'alcool, je ne serais plus là. J'aurais plus rien.
Bien sûr.
Mais c'est pas une critique. Hein. Moi, je comprends les gens. Hein. Donc, moi, mon avis, il est simple. Et je vous dis, on en parlait souvent avec le docteur Etilé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler en amont? C'est-à-dire, avant de dire, d'enfermer, c'est pas le mot, avant d'hospitaliser la personne, pourquoi ne pas sensibiliser l'entourage? Enfin, moi, c'est ma question. Parce que l'entourage, pour moi, c'est 50% de la guérison. Hein.
Oui.
Moi, je le dis franchement.
Ah oui, oui, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les intéresser autrement? Par le travail. Pourquoi des communes, comme je vais prendre le cas de Royère, il n'y aurait pas une petite structure, juste pour les héberger, et que la journée on les occupe, mais qu'il y ait un suivi derrière psychologique, et que la famille vienne voir. Vous savez, quand on vous dit, putain c'est bien mon gars, aujourd'hui t'as vu, t'as pas bu, t'es bien parti, ben, c'est glorifiant. Oui. Mais si on vous dit, putain t'as vu, il est encore bourré comme un coin, ben, c'est pas glorifiant. Je pense que si on donne les moyens aux gens et qu'on reconnaît leurs valeurs, voilà, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Parce que tout le monde a des valeurs. Même celui qui est malade de l'alcool. À un moment, c'est ces valeurs-là qu'il faut qu'on aille chercher. Et peut-être que là, on arrivera à les aider à s'en sortir. Moi, c'est mon point de vue.
Oui, oui, mais vous rejoignez des points importants qui sont évoqués dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'alcoolisme.
Et là, moi, je le vois comme ça. Puis voilà, je vous dis, moi ça fait 5 ans, plus rien, même pas dans les chocolats. On peut boire l'apéro à côté de moi, j'en ai rien à...
Ça vous fait plus envie?
Ah mais pas du tout. Au contraire, ça m'effraie.
D'accord. Ah oui, oui, oui.
L'odeur, mais c'est horrible. Et quand on se dit, avec le recul, c'est pas possible, t'as avalé ça. T'es fou. Moi, il y a de l'alcool à la maison, pour les gens qui viennent. Mais moi, je bois de l'eau pétillante avec du sirop. Bon, après, il y a le diabète, mais... non, mais voilà. Mais j'ai retrouvé toutes mes facultés. Hein.
Intellectuellement, vous aviez perdu ?
Je perdais la mémoire. On perd la mémoire. Et le fait de reprendre cette... Alors, le docteur Etillier m'avait expliqué que la vitamine B6, justement, c'est fait pour ça. Ça permet de refaire travailler. Et puis, j'ai lu. Je me suis mis sur Internet.
Qu'est-ce que vous lisiez ?
Je lisais beaucoup les journaux. La montagne, les journaux. Mais j'allais beaucoup lire sur Internet. Des revues de presse, des... Voilà, et puis je m'intéressais à moi aussi. Quand j'ai eu le traitement, je suis allé voir à quoi ça correspondait. Ça correspondait. Mais j'étais lucide à ce moment-là. Mais je peux vous dire que les 4 jours que je suis resté sans rien, j'ai cru que j'allais mourir.
Vous étiez tout seul ?
Tout seul. Tout seul. D'ailleurs, le docteur Etillier m'a gueulé sur là. Ouais. Il m'a dit, t'es fou. T'aurais pu faire n'importe quoi. Et je suis resté tout seul. Du 23 au 27. Tout seul à la maison, j'ai vu personne. Et là, il m'avait dit, il faut surtout pas t'arrêter comme ça. T'aurais dû m'appeler le jour même. Mais le 4, je peux vous dire, le matin, mais je mangeais plus rien. Hein. On mange plus. On est gros parce qu'on est boursouflé. Et je peux vous assurer que là, mes dernières prises de sang, même à 52 ans, c'est du top du top. Hein. J'ai 16 gamma GT. Non mais... Et vous savez au point où j'en suis arrivé, quand je vais chercher des médicaments, la première question que je demande, est-ce qu'il y a de l'alcool dans le sirop ? C'est quand même... Et je leur dis non, j'en veux pas. Je suis arrivé à ce moment-là, moi. Mon chéri, là, vous m'en ferez pas manger. Hein.
Ah oui.
Ah non. C'est pas par peur. C'est que j'ai pas envie.
Voilà. C'est le dégoût.
C'est le dégoût. Je suis dégoûté. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est dégoûté. Je vais au bistrot, ça sent le Ricard attenant. Ah oui. Ça me gêne pas du tout. Hein. Je vais m'asseoir un peu plus loin, je me prends mon petit café au Mont des Abolomantes, et puis ça va très bien. Et ça m'empêche pas de discuter avec des gens et de... Parce qu'on perd ce lien social, pour être honnête. Quand on est alcoolique ou dépendant de l'alcool, on perd le lien social. Il ne faut pas se voiler la face. Les gens, ils vous aiment. Hein. Mais t'as vu comment il était fait hier soir ? Puis ça dure depuis des semaines. Hein. Voilà. Par contre, je dirais qu'il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on a, par où on est passé. Moi, j'en parle à n'importe qui.
Vous arrivez à aider des gens qui en souffrent ?
J'essaye. C'est mon plus grand plaisir. Bon, en tant que sapeur-pompier, mais même en tant que personne, ça serait de pouvoir avoir 3-4 personnes et essayer de trouver la solution. C'est mon plus grand plaisir, ça. Hein.
Ouais.
C'est une fierté. Vous aurez aidé quelqu'un à s'en sortir. Sans qu'il soit, alors pas enfermé, je le répète, mais qu'il soit hospitalisé pendant des mois, et qu'en sortant, on sait que ça ne marchera pas.
Pourquoi ça ne marche pas, après des mois, après un mois d'hospitalisation ?
Est-ce qu'il y a bien ce tissu familial autour ? Est-ce qu'il y a l'envie ? Est-ce qu'on leur parle d'envie ?
Vous avez eu recours aux associations ?
Aucune.
Aucune.
Non, je vous dis.
Non, tout seul. Tout seul et la famille.
Voilà. Et les proches. Et les amis sont revenus après.
Quels commentaires ils vous font, les...
On en parle. Ils me disent, tu te rappelles comment t'étais ? Je dis, oh, putain, oui, j'étais chiant, mes pauvres gars. Et puis, on en rigole. Hein. On en rigole. Et j'ai permis, alors si, parce que votre question tout à l'heure, j'ai permis à certains de se rendre compte qu'il fallait pas aller trop loin. Parce qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, bah tu vois, le fait que on t'ait vu comme ça et que tu t'en sois sorti, bah moi maintenant, tu vois, je me cantonne à 2 apéros, j'en bois pas plus.
Ah oui, vous servez de modèle du coup.
Voilà. Là, il n'y a plus d'alcool à la caserne depuis que j'ai arrêté. Ils en veulent même pas. On n'a plus rien.
Alors que c'est pas interdit.
Ah
oui.
Vous vous rendez compte ?
Oui, en effet.
Mais c'est une fierté quand même.
Ah oui.
Et donc voilà, indirectement, c'est pas moi qui l'aurais dit, mais indirectement, voilà, j'ai mon voisin là qui